Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Après les tractations et les mystères, l'heure de vérité pour François Bayrou.
Monsieur le Premier ministre, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Il a prononcé cet après-midi son discours de politique générale, attendu au tournant sur un dossier sensible, la réforme des retraites.
Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite.
Ni suspension, ni abrogation, François Bayrou a finalement opté pour la renégociation. La réforme qui fixe l'âge de départ à la retraite à 64 ans sera discutée par les partenaires sociaux dès vendredi pour qu'elle soit socialement plus juste sans dégrader l'équilibre financier recherché par le gouvernement.
Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer.
Le Parti socialiste refuse un retour à la loi de 2023, mais accepte de nouvelles discussions.
Vous avez annoncé que tout était négociable, même l'âge de 64 ans. C'est notre demande et la perspective d'une loi avant l'été. Nous la prenons, nous faisons confiance au dialogue social.
Les macronistes et les républicains soutiendront de leur côté le gouvernement et ne voteront pas, jeudi, la motion de censure déposée par la France insoumise. Alors François Bayrou a-t-il choisi la bonne option pour ne pas subir le même sort que son prédécesseur à Matignon ? Que faut-il attendre des 3 mois de négociations à venir avec les partenaires sociaux ? Un accord sur l'âge du départ à la retraite peut-il être trouvé ?
Voilà nos 3 invités pour ce débat. Philippe Dessertine, bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à Paris, un Panthéon-Sorbonne, et vous présidez le comité 21 consacré au développement durable. Selon vous, la France ne peut financièrement pas se passer d'un départ en retraite à l'âge de 64 ans, et ce ne sera sans doute pas suffisant. Mais François Bayrou n'est que dans un calcul politique, selon vous. Il ne veut pas être censuré et il veut durer à Matignon jusqu'à la prochaine dissolution. À côté de vous, Thomas Porcher, économiste, membre des économistes atterrés et du fan club de Joseph Stiglitz, comme votre voisin
oui,
d'ailleurs,
exactement.
Il y a eu une selfie tout à l'heure. Votre BD, Thomas Porcher, illustré par le Divine Stock, l'économie pour les 99%, est paru chez Stock. Selon vous, la majorité des Français s'est opposée à la retraite à 64 ans. Le gouvernement actuel ne peut pas passer à côté de cette question, mais attention, la renégociation, la remise en chantier, donc promise par François Bayrou, risque d'accoucher d'une souris. Et Tam Tranui, bonsoir madame,
bonsoir.
Directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, en charge du parlementaire. Selon vous, François Bayrou a soigneusement choisi peser au trébuchet ses mots sur la réforme des retraites, des mots qui ne vont pas fâcher la droite et qui devraient dissuader une bonne partie des socialistes de censurer. C'est le retour en force du courant réformiste au PS. Et on démarre avec le chiffre
oui,
du jour.
3,4 milliards, hein, ce serait le coût de l'abrogation de la réforme de 2023 et le recul progressif prévu de l'âge de la retraite, un chiffre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la seule année 2025, pour cette année. Philippe Dessertine, je vous vois hocher de la tête, ça veut dire que pour vous, vous persistez, vous signez, il n'y a pas d'autre solution que 64 ans, voire plus.
Oui, je pensais que le chiffre du jour que vous alliez donner, c'était la baisse de la natalité française qui a atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis pratiquement l'après-guerre. Ce qui veut dire effectivement qu'on est dans une équation intenable. On sait qu'avec la réforme telle qu'elle est déjà votée, le Conseil d'orientation des retraites a annoncé cette année un déficit, c'est-à-dire que nous ne passons pas. Et d'ailleurs, le Premier ministre a commencé par, d'une part, parler de la dette, et ensuite évoquer le déficit qui était le déficit aujourd'hui, qui signifie, et je crois que c'était quelque chose qui est important à rappeler, nous endettons pour payer les retraites. C'est-à-dire, en effet, on reporte sur le futur le coût d'une dette dont le seul but est de permettre, évidemment, à nos anciens, et c'est absolument capital, de pouvoir vivre au quotidien, mais ce qui veut dire à quel point notre système est déséquilibré.
Oui. Vous évoquez la baisse de la natalité. Pour les jeunes qui nous regardent, parce qu'il y a de moins en moins d'actifs pour financer la retraite, bah, des retraités, hein, c'est ça la baisse.
On est d'accord, c'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas mis d'argent de côté, c'est les actifs qui payent votre retraite, et c'est très bien.
Thomas Porcher, quand on regarde chez nos voisins européens ce qui se passe, on va voir par exemple en Espagne 65 ans, et c'est un gouvernement socialiste. Est-ce que c'est vraiment une réforme injuste que d'aller jusque-là, vous continuez, vous aussi, à le soutenir.
Oui, alors déjà, moi, j'ai un problème sur les causes de cette crise, parce que
Vraiment, là, ce qu'a dit M. Bayrou, c'est qu'il a mis les retraites comme une des premières causes du déficit. Ce qui est quand même hallucinant, parce que depuis 2017, il y a eu quand même des réformes fiscales qui ont été faites. Il y a 70 milliards d'impôts, de baisses d'impôts qui ont été faites. Tous les ans, 70 milliards de baisses d'impôts en moins. Il y a eu ces réformes, cette politique d'offre n'a pas eu les effets escomptés. La dette n'a pas augmenté à 50%.
Il y a eu le Covid, hein, il y a eu le quoi qu'il en coûte.
Oui, il y a eu. Alors, quand on regarde ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, prenons, il y a eu grosso modo la crise 2008 et ses effets. Il y a eu la crise des dettes souveraines, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la crise inflationniste. Et quand vous regardez la crise du Covid, la crise 2008, vous avez eu quand même des bons de la dette publique.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, mais de ramener à ça à un problème qui serait lié à la dépense sociale et notamment les retraites.
Mais il y a la crise démographique aussi, Thomas Borchet. Il y a cet argument-là. Il y a eu des chocs. Qui fait que peut-être il faut qu'on travaille davantage.
Écoutez, il y a eu un choc démographique extrêmement fort entre 70 et 2014. Oui. En 70, vous aviez 3 retraités pour 10 salariés. En 2014, vous aviez 6 retraités pour 10 salariés. Donc ça veut dire que le nombre de retraités avait doublé. Mmh. Et comment on a fait ? Eh bien, nous avons augmenté les cotisations, nous avons augmenté la part du PIB que nous consacrons aux retraites. Si on ne veut pas toucher. Je finis. Si on ne veut pas toucher l'âge de la retraite, et on ne veut pas toucher les pensions, parce que les pensions vont diminuer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faudrait, d'ici à 2050, que l'on passe de un peu plus de 13% du PIB consacré aux recettes à 15% du PIB. Est-ce que cette question ne peut pas être posée alors que nous sommes un pays qui vieillit ?
Alors, ben on va vous soumettre une archive précisément à propos d'une anticipation qui avait été faite en 1998 à propos des problématiques démographiques. Le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin en 2001, un fonds réservé donc pour situations dramatiques. Regardez, c'est une archive donc qui remonte à 1998 au moment de l'annonce.
Juste après la guerre, en 1945, et pendant 20 ans, la France a connu un baby-boom, c'est-à-dire une augmentation forte et durable du nombre de naissances des enfants devenus pour une large part les salariés d'aujourd'hui. Mais voilà, ce baby-boom d'hier va déboucher 60 ans après sur le papy-boom de 2005. Au-delà de cette date, la population âgée inactive s'accroîtra en net de 250 000 à 300 000 personnes de plus de 60 ans par an, et cela pendant 20 ans. Pour aborder ce cap difficile de 2005, le gouvernement va donc créer un fonds de réserve destiné à consolider le régime de base des retraites. Il s'agit de maintenir la retraite par répartition, où les actifs paient pour les retraités actuels, mais avec en plus une petite réserve en capital. Ce capital, le gouvernement compte le trouver dans le produit de la future réforme des caisses d'épargne, dans les excédents du fonds de solidarité vieillesse, mais aussi dans certaines recettes de privatisation à venir.
Il y a une cagnotte quand même, il y a 20 milliards dans ce fonds de réserve aujourd'hui, Tam Tranui. Le PS suggère de puiser dedans. Est-ce que c'est vraiment dans le débat ? Est-ce que Bayrou y pense ?
Bon, en tout cas, on a entendu le Parti socialiste qui veut montrer en quelque sorte qu'il peut être responsable sur cette question, qu'il ne se positionne pas de la même façon que notre parti du Nouveau Front Populaire et notamment la France Insoumise qui réclame purement et simplement l'abrogation. Là, c'est l'occasion pour le Parti socialiste de dire nous arrivons, nous demandons aux partenaires sociaux de se remettre autour de la table, nous acceptons ce scénario que vous nous proposez, François Bayrou, et nous avons aussi des solutions. Ça rappelle qu'historiquement, le Parti socialiste avait pris ses responsabilités, Lionel Jospin. Mmh. Ça peut rappeler aussi quand même que Marisol Touraine avait, elle aussi, fait une réforme sur les retraites et qui avait eu le bonheur de beaucoup mieux passer auprès de la population que cette réforme.
Ancien ministre de François Hollande.
Bien sûr, de François Hollande. Le principal problème de cette réforme, en fait, c'est quand même l'énorme crispation démocratique qu'elle a engendrée, la façon dont la pilule a été passée auprès des Français. Et c'est aussi pour ça que c'est un point totémique, dit-on, qui a réussi à rassembler le Nouveau Front Populaire. L'abrogation de la réforme des retraites, c'était la première mesure qui était proposée dans leur programme l'été dernier.
On va revenir sur la mise en chantier, mais faut-il, après tout, s'interdire de puiser dans ce fonds de réserve 20 milliards ?
Mais je crois que c'est vraiment typique de la logique française, c'est-à-dire échanger le court terme contre le long terme. Mmh. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir qu'en 2001, on disait, puisque le but, c'est évidemment pas mettre de l'argent qu'on a caché dans le jardin, c'était de dire on place, et grâce à ce que rapporte le fonds, on va pouvoir augmenter ou on va dire compléter la rémunération des retraites. C'est-à-dire c'est quelque chose qui normalement était censé durer dans le temps. Déjà en 2010, on l'avait réformé en disant « Ah oui, mais comme on fait une réforme, on n'en aura plus besoin, donc on va commencer à l'utiliser pour rembourser la dette abyssale de la Sécurité sociale qui, entre parenthèses, continue d'augmenter. On n'a toujours pas voté le plan, le PLFSS, c'est-à-dire le budget de la Sécurité sociale de l'année prochaine, entre parenthèses, avec un déficit toujours plus fort. Et là, on dit « Ah bah, on va prendre le capital. » C'est-à-dire, on vous dit « On va en fait prélever Et alors, du coup, on va faire comment pour le remboursement de la dette de la CADES? Et du coup, on va faire quoi dans la perspective de long terme où on a besoin de cette rémunération? C'est-à-dire que c'est vraiment l'échange du court terme pour des fins politiques, du long terme qui avait été envisagé d'un point de vue économique.
À l'époque. Alors, on va évoquer, attendez, on va évoquer avec vous trois et avec Fanny la réforme des retraites qui est entrée en vigueur en septembre 2023. Alors, où en est-on aujourd'hui?
Eh bien, depuis le 1er septembre 2023, date effectivement de son entrée en vigueur, la réforme a déjà commencé à faire reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans de manière très progressive. Tous les ans, l'âge de départ à la retraite recule de 3 mois par palier de génération. En clair, à l'instant T, depuis le 1er janvier de cette année, 2025, l'âge de la retraite est passé à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1963. Autrement dit, elles partiront à la retraite au mieux à partir du 1er octobre prochain. Au total, depuis que la réforme est appliquée, 840 000 personnes sont déjà parties à la retraite avec les nouvelles règles en vigueur. L'objectif à terme, c'est donc la retraite à 64 ans en 2030 pour la génération des personnes nées en 1968. Alors vous avez entendu François Bayrou tout à l'heure, il a dit qu'il ne suspendra pas la réforme. Autrement dit, elle va continuer à s'appliquer pendant la renégociation au printemps avec les partenaires sociaux. A priori, il n'y aura donc pas de retour à la retraite à 62 ans comme avant la réforme. Cela dit, la gauche, elle, n'entend pas non plus arriver jusqu'aux 64 ans. Thomas Porcher, est-ce qu'on peut imaginer que cette remise en chantier de la réforme aboutisse finalement à un entre-deux, par exemple une retraite à 63 ans?
Je crois pas, parce que j'ai vu quand même la charge, enfin quand j'ai écouté le discours, après je sais pas, hein, on verra après, parce que tout ça est aussi du jeu politique, mais quand j'ai vu le discours de M. Bayrou, j'ai vraiment vu une charge très forte contre le système de retraite à la française, avec même une utilisation des chiffres qui était pour moi à la limite de l'honnêteté. Par exemple, quand il a dit qu'il y avait 55 milliards de déficit, non, le déficit des régimes de retraite c'est 6 milliards, 14 milliards en 2030, c'est ce que dit le corps. Là, ce qu'il a pris dans son calcul, il a pris déjà le déficit de la retraite des fonctionnaires. Alors, c'est important déjà de dire une chose, c'est que ce déficit est plus ou moins organisé par des choix politiques. C'est-à-dire que quand vous ne remplacez pas un fonctionnaire sur deux, vous avez un problème de financement des retraites. Quand vous faites de la modération salariale sur les fonctionnaires, vous avez un problème
c'est quoi,
de financement.
La modération salariale,
vous, l'indice des fonctionnaires, vous faites la modération, le prix de par exemple, d'un cours de TD n'a pas été revalorisé depuis 25
d'accord.
ans, enfin,
d'accord.
ce genre de choses. Voilà. Donc, vous voyez, mais après, surtout que l'État, qu'est-ce qui emploie les fonctionnaires? C'est l'État le patron. Et l'État patron, il ne paye pas de charges patronales sur les retraites. Donc c'est un jeu d'écriture. Si demain, il voulait augmenter ses charges patronales d'accord. sur les retraites, il n'y aurait pas à couvrir un déficit ou beaucoup
plus. Mais vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose à négocier ou pas, Thomas Porcher? Parce que
non, mais où est-ce qu'on va maintenant? Il y a aussi une compensation. Parfois, ce qu'on appelle la compensation démographique. C'est-à-dire que, par exemple, M. Bayrou dit qu'il aime bien les agriculteurs. Eh bien, vous avez de moins en moins d'agriculteurs. Oui. Il faut bien que les agriculteurs qui sont à la retraite aujourd'hui reçoivent leur cotisation de retraite. Comment vous faites? C'est l'État, c'est le rôle de l'État de compenser ça. Comment on fait pour les marins pêcheurs? Comment on fait pour les miniers? C'est l'État. Donc, vous voyez, il y a des fois où il y a des professions qui disparaissent et des gens qui vont être à la retraite et il faut bien que les caisses de retraite soient à l'équilibre. Donc, on ne peut pas utiliser tous les chiffres comme
mais
ça.
Vous ne voulez pas répondre. Qu'est-ce qu'il faut négocier? Qu'est-ce qu'il va falloir négocier, résoudre à négocier?
Bon, la démocratie, je ne sais pas, moi je ne suis pas politique, mais la démocratie voudrait que quand on a une telle opposition à une réforme des retraites, qu'on trouve à un moment d'autres façons de combler les déficits.
Ah, voilà, Dame Traduit, mais ça veut dire quoi négocier? Est-ce que concrètement, François Bayrou parle de renégociation entre partenaires sociaux, mais est-ce qu'ils peuvent renégocier quand ils sont si opposés? On voit que le patronat dit 64 ans et peut-être pas plus à terme.
Oui, et surtout qu'ils ont quand même un objectif, c'est ne pas dégrader l'équilibre financier du régime de retraite. Donc vous avouez que c'est quand même une négociation qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu biaisée. Après, les uns et les autres font des propositions, hein, qu'il s'agisse des syndicats ou du patronat. Mais moi, ce que je ressens surtout, oui. c'est que le prochain changement, il doit avoir lieu en septembre prochain. Oui. C'est le moment où il doit y avoir 3 mois supplémentaires qui sont rajoutés. Tout est fait, quand même, pour ne pas avoir à toucher à ce moment butoir de septembre. On nous dit tout sera encadré sur 3 mois seulement. C'est quand même pas très long, 3 mois, qu'on donne aux partenaires sociaux. Il a utilisé le terme de conclave. En gros, on les enferme dans une pièce et on leur dit, vous vous mettez tous d'accord oui. ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe?
Bah oui.
C'est que s'ils ne trouvent pas de solution, on revient à la réforme d'Elisabeth Borne. Donc la négociation, alors, elle est biaisée.
Il faut trouver une porte de sortie, Philippe de Sertine. Est-ce que la retraite à points, on est en train de murmurer que ça pourrait revenir sur la table, est-ce que ça peut être une solution entre les partenaires sociaux? La CFDT n'était pas contre, le patronat pas tant que ça, et Emmanuel Macron a dit que c'était son plus grand regret de ne pas l'avoir mené. Est-ce qu'on pourrait aller vers cela pour mettre tout le monde d'accord?
Alors d'abord, je vous rappelle qu'en septembre, on peut avoir une dissolution, ce qui, auquel cas...
On peut l'avoir dès juillet. Hein.
Ah oui, dès juillet pour les élections en septembre, hein, donc juste au passage. Ensuite, la question de la retraite à points, c'est extrêmement complexe. Il faut rappeler, on a 42 régimes de retraite, c'est-à-dire que vous auriez donc en fait quelque chose d'uniforme, c'est-à-dire la notion de points que vous allez gagner au fur et à mesure pour toutes les personnes à la retraite. Et Thomas Porcher a évoqué tout à l'heure la question majeure des retraites du public.
Des fonctionnaires.
Des fonctionnaires, effectivement, ce qui va faire que la négociation sur tous les régimes de retraite français autour de la retraite à points, elle va prendre des mois.
C'est impossible.
Aucune chance que ce soit fait pour le mois de septembre. Aucune
chance. Risque social, en plus.
En plus, avec là, à nouveau,
de manifestations, etc.
Rappelons qu'Edouard Philippe s'était cassé les dents sur la retraite à points. C'était en décembre 2019. Ça n'avait déjà pas du tout fonctionné. Tout le monde était extrêmement inquiet, alors même qu'il avait la CFDT avec lui, puisque la retraite à points, c'est d'abord une proposition qui a été faite par Laurent Berger à la tête de la CFDT. Donc, il avait quand même une partie des partenaires
sociaux. Parce qu'il y avait un âge pivot à ce moment-là aussi.
Il y avait aussi l'histoire de l'âge pivot. Il y a toujours quelque chose qui vient rendre beaucoup plus difficile ce type de réforme structurelle.
Mais alors donc, cette remise en chantier, elle a l'air impossible. C'est une illusion d'optique. C'est un enfumage.
Oui, je pense que ça va être très difficile. Et c'est ça le vrai problème. C'est que la question de la stabilité politique, qui là, sur le coup, sur le long terme, peut être un problème. On en revient à cette prime de risque que les marchés financiers peuvent nous imposer, qui, à mon sens, ne sera pas un scénario à la grecque, comme on a pu l'entendre d'ici et là, mais malgré tout...
C'est-à-dire une dégradation supplémentaire.
Il peut y avoir une hausse... L'instabilité politique, là, ça fait plus de 6 mois, ça peut durer, mais après, est-ce que ça peut durer comme ça jusqu'en 2027? C'est quand même... Là, ça risque d'être...
Pensez à un certain scrutin présidentiel, c'est ça, 2027.
Si personne ne trouve d'accord...
Mais pardon, Thomas Porcher, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que, est-ce qu'on garde, pour vous, on est arrivé à 62 ans et 9 mois? On reste quand même à cela? On prend cet acquis-là? Ou vous dites, bah non, 62 ans reste la réforme la plus juste qui a été faite?
Moi, j'ai trouvé que la réforme qui a été faite par Elisabeth Borne n'était pas juste. Et moi, je ne regardais... Voilà. Et puis surtout que nous avons le niveau de vie des retraités qui est équivalent au niveau de vie des actifs. Nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. Donc pour moi, c'était une politique sociale qui fonctionnait bien. Et donc je ne voyais pas pourquoi on voulait remettre ça en cause, alors même que nous sommes un pays qui vieillissons et que nous allons avoir de plus en plus besoin d'accorder une partie de notre richesse à la population vieillissante. Je trouvais qu'il fallait plutôt l'accompagner plutôt que de baisser les pensions et d'obliger les gens à travailler plus. En fait, la vraie question, c'est qu'il ne faut pas obliger les gens à travailler plus longtemps, il faut qu'on soit plus nombreux à travailler et mieux. C'est ça la vraie question de fond.
Plus longtemps, je pense que d'abord, plus nombreux, pas plus longtemps.
Non, mais la question sur la manière dont on envisage notre vie au travail est en fait la vraie question de fond qu'on n'a pas abordée, et notamment la fin de vie au travail et l'idée que quand on dit...
Fin de vie au travail, c'est-à-dire le travail des seniors?
Oui, exactement. Quand vous continuez à travailler, par exemple, en Europe du Nord, vous n'allez pas travailler à temps plein. Vous allez avoir, quand on va dire on est avec des prix et des mises à la retraite beaucoup plus tard, ce n'est pas comme en France. C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas d'un seul coup d'un
retraite
seul.
Progressive.
Vous avez un pot de départ.
Donc il n'y a aucune souplesse. Il faudrait revenir sur quelque
exactement,
chose de plus souple,
il faut quelque
de plus
chose
ajusté.
Et bien entendu, et regardez sur la question de la pénibilité, sur la question des femmes, ce sont des questions fondamentales, mais on ne se les pose pas. En revanche, quand on est en train de dire il n'y aura pas de crise, ça c'est autre chose, parce qu'effectivement, même Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, hier, disait on peut craindre une crise financière. Il faut rappeler, les agences de notation ont beaucoup insisté sur le fait que la réforme des retraites était une des raisons pour lesquelles elle ne dégradait pas la note de la France pour le moment. Donc il y a un vrai risque, sachant que nous sommes dans un climat où les taux d'intérêt mondiaux se tendent. Et donc, il faut rappeler, nous étions vendredi dernier à 3,38, le taux à 10 ans français. 3,38, c'est ce qu'on payait au moment de la dégradation AAA de la France. En 2019, on était à moins 0,42, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a une augmentation énorme du coût.
On avait gagné de l'argent à l'époque.
Mais... Oui, à l'époque, plus vous empruntiez, plus vous gagniez. Donc, c'était formidable. Là, maintenant, c'est plus le cas.
Politiquement, est-ce que François Bayrou a acheté une paix politique assez durable, en tous les cas, peut-être jusqu'au mois de septembre, en ménageant droite et gauche et en isolant l'ERN et la France insoumise?
Assez durable, c'est difficile à dire.
Temporaire. Hein,
on a compris que le Parti socialiste, qui mettait dans la balance face à sa mansuétude un peu sur la question des retraites, c'était quand même beaucoup de choses au niveau du budget. Ils réclament des choses au niveau de l'hôpital public, ils ne veulent plus des suppressions de postes à l'éducation nationale, ils demandent des avancées sur la fiscalité, sur la contribution sur les hauts patrimoines, sur la taxe sur les transactions financières. Donc il n'y a pas rien.
Et une chance pour qu'ils obtiennent.
C'est la prochaine séquence. C'est la séquence budgétaire, le budget, il reprend, et ça, ça peut faire une grande discussion démocratique. Là où il s'était arrêté, c'est-à-dire au niveau de la discussion sur les crédits au Sénat mercredi.
Donc
là
la non-censure n'est pas acquise.
Si la censure, en tout cas la censure de décembre n'a rien changé à la façon dont se déroule le budget. Et ça, on sait que ça fait déjà bien grincer des dents à gauche et qu'il va falloir quand même que François Bayrou, de ce point de vue-là, lâche vraiment des gages.
Oui.
Parce que sinon, effectivement, motion de censure, il peut encore y avoir à l'issue du budget, comme il y a eu au mois de décembre sur le budget de la Sécurité sociale. Ce n'est pas impossible, surtout s'il passe par un 49-3.
Thomas Porcher, vous serez choqué si les socialistes ne votent pas la censure. Est-ce que vous les qualifieriez de social traite? C'est ce qu'ils sont en train de dire les insoumis.
Les insoumis disent des choses.
Je vous pose la question.
Vous n'êtes pas insoumis, vous êtes atterré.
Non, exactement. Je ne qualifierais pas les choses comme ça. Après, il y a de la stratégie politique derrière. Moi, c'est ça surtout. Je pense que.
Mais il faut négocier. Il faut compromis, négociation.
En fait, le problème, moi, je trouve de M. Bayrou, c'est qu'il prend très au sérieux la question de la dette, trop au sérieux la question des déficits. Alors, bien sûr, il faut trouver de la stabilité et des prévisions crédibles, ce qui n'a pas eu lieu à Bercy les dernières fois. Mais à partir du moment où vous prenez cette question du déficit beaucoup trop au sérieux comme lui, vous avez obligatoirement un budget qui va être contraint. Et donc, les marges de manœuvre vont être extrêmement faibles. Donc, à mon avis, dans ce contexte-là, les socialistes n'ont pas grand-chose à gagner.
Et la droite, en tous les cas, est plutôt satisfaite. Regardez ce tweet de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, je me félicite que la réforme des retraites n'ait été ni abrogée ni suspendue, mais elle reste vigilante pour empêcher de creuser la dette. Au moins, il a toujours le soutien de la droite, mais ce n'était pas son objectif initial.
Ce n'était pas son objectif initial, mais quand vous posez la question s'il y avait censure sur le budget, alors là, pour le coup, je crois que je rejoindrais Thomas Porcher chez les atterrés. Parce que là, ce serait épouvantable si la France se retrouve à nouveau censurée sur son budget. Je crois qu'on a commencé à se rendre compte ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des collectivités locales, des collectivités publiques qui ne peuvent pas fonctionner. Elles n'ont pas leur dotation. C'est quelque chose d'incroyable. On voit à quel point, en fait, on est dans un système qui est un système totalement artificiel. Ce que je disais, c'est la petite roue que vous mettez quand vous avez crevé. Vous ne pouvez pas faire 100 000 km comme ça. C'est juste pour aller jusqu'à un budget. Il faut absolument que le budget soit voté très vite.
Est-ce qu'il n'est pas en train de diviser pour mieux régner à gauche, en tous les cas, François Bayrou? Est-ce qu'il n'est pas en train de réussir cela tout de même? Faire exploser le NFP?
Oui, c'est clairement ce que l'on est en train de percevoir voir aujourd'hui, avec notamment du côté des socialistes, l'aile réformiste. Le retour de l'aile hollandaise. On sait qu'aujourd'hui, François Hollande s'est exprimé en réunion de groupe à l'Assemblée nationale et a plaidé pour la non-censure. On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions au bureau national du Parti socialiste et que ce sont les jeunes générations qui ont eu le plus de mal à avaler la pilule de la non-censure. Mais qu'on a l'impression quand même que...
La jeune génération, c'est Thomas Porcher, alors.
Mais oui, ça le fait marrer, d'ailleurs.
Non, mais je pense qu'il y en a certainement qui se sentent un petit peu culpabilisés face à la situation dans laquelle la France a été plongée au niveau du mois de décembre. Non, la jeune génération, c'est Emma Raffovitz.
Des gens beaucoup plus jeunes.
Voilà,
tout à fait.
Chloé Ribel, des gens qui n'ont pas forcément apprécié d'être dans cette situation.
Donc, ce retour de la ligne hollandaise vous fait sourire?
La ligne hollandaise, je ne sais pas si c'est... Enfin, il y a eu deux lignes hollandaises. Il y a eu la première partie du quinquennat qui était une partie plutôt social-démocrate, et là, tout le monde s'en accorde. Et puis, il y a la deuxième partie avec le tournant CICE, etc., qui était plutôt une partie libérale, donc proche de Macron. Donc, M. Hollande a plusieurs visages.
Merci à tous les trois d'être venus explorer notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.